Bonjour à tous, l'actualité des Alpes du Sud à la mi-journée en ce mercredi 29 mars 2017, les titres. Les Hautes-Alpes et l'Isère se rapprochent fortement, les deux départements veulent travailler ensemble plus régulièrement et plus étroitement. Le loup, à l'horizon 2025-2030, le gouvernement a mené l'enquête, une étude d'experts qui analyse l'évolution biologique de l'espèce et doit orienter les prochaines politiques publiques. La SNCF supprime 26 trains de nuit Paris-Briançon, c'est l'une des trois lignes sauvées par le gouvernement, mais d'importants travaux sont nécessaires à sa survie. Les rapaces de Gap se font manger par les dragons de Rouen, défaite en prolongation 3-2 hier soir pour le premier match de la finale du championnat de France. Mutualisation avant fusion pour les départements des Hautes-Alpes et de l'Isère. Hier, une rencontre a eu lieu entre Jean-Marie Bernard, le président des Hautes-Alpes, et Jean-Pierre Barbier, le président de l'Isère. Ils ont annoncé des mutualisations nécessaires entre les deux entités autour des routes, du train et du tourisme. Mais dans les esprits, beaucoup parlent d'une possible fusion. Les deux départements qui sont aujourd'hui main dans la main pour peser auprès de l'État et de leurs régions respectives, principalement pour obtenir des financements, notamment sur les départementales 1091 et 1075. D'ailleurs, des études seront lancées pour évaluer exactement les moyens nécessaires. Si Jean-Pierre Barbier avance la loi comme une barrière pour la fusion, l'idée n'est pas très loin.
On a une volonté de travailler ensemble parce qu'on a des intérêts communs, on a une volonté de mutualiser parce que bon, le département de l'Isère fait 1 300 000 habitants et beaucoup plus important que le département des Hautes-Alpes. Et donc on a cette volonté de travailler ensemble, hein, sans volonté d'absorption, je crois qu'il faut être très clair. Aujourd'hui, la fusion n'est pas possible administrativement, mais rien ne nous empêche de travailler ensemble, c'est ce qu'on veut faire.
Si demain, elle est possible.
C'est un mariage à l'essai, on travaille ensemble, on va voir s'il y a une réalité aussi à cette entente. Décréter des fusions, avant tout, il faut voir si tout ceci a un sens, qu'est-ce qu'on peut économiser, vers quoi tout cela va tendre. Il ne s'agit pas de décréter une fusion simplement pour se faire plaisir, sans que ça n'apporte rien. On commence à travailler ensemble et puis, ma foi, si les choses se passent bien, si on s'aperçoit qu'il y a une vraie synergie entre les deux départements, on verra.
Jean-Marie Bernard avance aussi la volonté d'établir des synergies avec des départements porteurs économiquement.
Vous connaissez tous la situation du département des Hautes-Alpes qui est dans une situation financière très délicate. Demain, peut-être que le département n'a plus d'avenir. Il faudra peut-être qu'on trouve d'autres solutions. Et pourquoi pas, après, envisager des regroupements avec d'autres départements.
On aurait pu imaginer aussi que vous alliez créer des synergies avec les Alpes de Provence. On parle des Alpes du Sud et là, vous dirigez plutôt vers le nord.
Non, mais on a des travaux en commun avec les Alpes de Provence. Aujourd'hui, on a quand même des enjeux forts, notamment dans le domaine de l'aménagement des routes, avec le département de l'Isère, plus qu'avec le département des Alpes d'Haute-Provence.
Si vous deviez donner un adage, on ne fait pas de deux pauvres un riche, ce serait pour les Alpes d'Haute-Provence.
Ah ben oui, dans ce cas-là, forcément. Si vous voulez marier les Alpes d'Haute-Provence avec les Hautes-Alpes, vous faites de deux pauvres, vous en faites un grand pauvre. Donc c'est sûr qu'il vaudrait mieux lorgner du côté de l'Isère.
Des propos recueillis par Cyrielle Michard. Alors selon le code des collectivités territoriales, pour envisager une fusion, les Hautes-Alpes doivent déjà faire la démarche de quitter la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour rejoindre la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cela passera par un vote du conseil départemental des Hautes-Alpes, de la région PACA et de la région Aura, avec dans les trois cas un vote à la majorité des 3/5. Des prises de position qui devront être tranchées avant le 31 décembre 2019. En effet, la loi NOTRe ne permet pas au département d'envisager ce type de décision après cette date. En tout cas, le sujet fait beaucoup réagir et vous retrouvez les réactions de vos élus et de vos représentants économiques sur notre site alpe1.com. Commandée par le gouvernement, une étude sur la biologie de la population du loup vient d'être livrée. En septembre dernier sur Alpe 1, la secrétaire d'État en charge de la biodiversité, Barbara Pompili, avait annoncé la commande de deux études par le gouvernement. L'une sociologique qui est toujours en cours et donc cette étude biologique qui imagine la population du prédateur à l'horizon 2025-2030. Cette étude a un objectif politique, je cite, « garantir une cohabitation socialement et économiquement acceptable entre le canidé et les activités humaines ». Une étude qui devra aider les politiques dans leur choix d'action publique. Et malgré le mystère entourant l'espèce du loup, difficilement approchable, les experts se sont appuyés sur des données existantes et des études de terrain Cyrielle Michard.
Et c'est tout d'abord le régime alimentaire du loup qui demande quelques lignes. 9 meutes des Alpes ont été étudiées à partir d'excréments et les ongulés sauvages constituaient 76% de leur consommation, les espèces domestiques 16%, un dernier taux qui peut monter à 50% selon la situation géographique de la meute. Mais là aussi, les experts mettent un bémol car tous les troupeaux en zone de présence du loup ne sont pas touchés. Par exemple, en 2015, sur les 2900 éleveurs d'ovins viande dans les Alpes, 1100 ont été concernés par une attaque. Un loup qui, depuis son retour en France en 1992, n'a eu de cesse d'évoluer avant de se stabiliser ces trois dernières années. Sa population était établie fin 2015 à 70 meutes dans les Alpes, dont 35 en France, réparties sur 29 000 km². Des meutes qui peuvent compter de 2 à 10 individus. Une population des prédateurs établie dans l'Hexagone, selon les experts, à 200-300 individus. Population démographiquement viable à l'horizon de 50 ans, uniquement si le taux de mortalité ne dépasse pas les 34%. Si la croissance des loups a été exponentielle, de 12% par an entre 1995 et 2016, elle a été freinée à 5% depuis, notamment avec les tirs de prélèvement, des tirs qui ont ponctionné 14% des effectifs des canidés en 2015, soit l'équivalent de l'excédent de croissance. Reste désormais à savoir si cette mortalité forcée n'orientera pas la démographie du prédateur à la baisse. Toujours selon ce rapport, les prélèvements légaux ne doivent pas dépasser 10% de l'effectif estimé pour que leur population reste stable.
Et que sait-on, Cyrielle, justement de la relation entre le nombre de loups tués et la baisse des dégâts sur les troupeaux?
Difficile d'établir une relation de cause à effet selon le rapport. Certains scientifiques estiment que l'augmentation des prélèvements de loups générerait une augmentation des attaques de 4 à 6% l'année suivante, car les tirs peuvent éclater les meutes qui se dispersent, prennent du terrain et rencontrent inéluctablement les troupeaux. Quand d'autres, par contre, concluent que pour chaque loup tué, on peut enregistrer une baisse moyenne de 3% des attaques. Première conclusion des experts, la mortalité des loups évoluant au fil des ans, les politiques publiques devront probablement avoir une gestion adaptée et évolutive face à la population. Deuxième conclusion, la politique de tir de prélèvement n'est pas une solution de long terme. Le nombre de loups pouvant être retiré de la population ne pourrait à lui seul moduler les niveaux d'attaque. Les experts encouragent donc le gouvernement à adopter les approches complémentaires pour assurer la coexistence entre le prédateur et le pastoralisme.
Merci Cyrielle. Retrouvez évidemment l'ensemble de ce dossier ainsi que des infographies sur notre site alpe1.com. La SNCF concentre ses travaux et supprime de fait plusieurs trains de nuit Paris-Briançon. En 2016, le secrétaire d'État en charge des transports, Alain Vidalis, a formalisé la feuille de route du gouvernement pour un nouvel avenir des trains d'équilibre du territoire. Elle prévoit le maintien seulement de 3 lignes de nuit, dont la ligne Paris-Briançon, un maintien à hauteur d'un aller-retour par jour et qui doit se traduire par la remise à niveau du réseau pour plusieurs années, précise Jean-Aimé Mougenot, le directeur régional TER PACA. Des opérations qui nécessiteront de nombreuses limitations de vitesse et en conséquence, 26 trains de nuit seront supprimés dans les deux sens sur les mois d'avril et de mai 2017. Tout le détail sur alpe1.com.
Suivez les rapaces sur Alpe 1 avec Orange et vivez la Ligue Magnus avec votre boutique Répare Mon Mobile, rue Pasteur à Gap.
Les rapaces de Gap qui se sont inclinés hier soir lors du premier match de la finale du championnat de France de hockey sur glace, Romaric Ponce.
Une défaite en prolongation au bout du suspense, mais une défaite qui fait mal à domicile dans le premier match de la finale de la Ligue Magnus. Les rapaces ont été battus 3-2 hier soir par les Dragons de Rouen. Les Hauts-Alpins ont rapidement été menés 1-0 sur une infériorité numérique sanctionnée par Marc-André Tinel. Avant de réagir et de prendre le momentum dans le match, les rapaces égalisent par Sean Ringrose sur un bon jeu de Marc-André Bernier. Le capitaine également sur l'assistance du deuxième but des siens, inscrit en début de deuxième tiers par Morin Bouvet. Après 15 minutes dans le deuxième tiers, Loïc Lampérier sur un nouvel avantage numérique remet Rouen à égalité et les Hauts-Normands vont désormais prendre la maîtrise du jeu des Dragons qui vont tout de même être poussés tant bien que mal jusqu'en prolongation par les rapaces. Matt Husset profitera d'une erreur à 3 contre 3 pour tromper Clément Fouquerel. C'est donc 1-0 Rouen dans la série. Écoutez d'abord le coach des Dragons, Fabrice Lanry, auteur d'un temps mort plus qu'important peu après la mi-match.
Déjà la fin du premier tiers, les 2-3 dernières minutes ont été difficiles et puis je pense qu'on était resté au vestiaire un petit peu début du deuxième. Il fallait recadrer tout ça parce que sinon on ne pouvait pas gagner ce match-là. C'est vrai qu'après ce temps mort, on s'est remis à jouer, on a été plus actifs parce que là, on regardait Gap jouer et donc voilà, on a fait une bonne fin de deuxième tiers et puis on a vraiment bien défendu, les gars sont vraiment sacrifiés.
Voilà, pour Fabrice Lenry, le coach rouennais, le constat était plus sévère chez les Rapaces. Écoutez Luciano Basile.
Moi, j'ai trouvé qu'il nous a manqué un peu de focus, un peu de concentration. On l'a vu sur notre efficacité qui nous a manqué un peu avec le palais. Je trouve qu'on les a mis en difficulté. Donc, il y a eu des gros trous d'âge, je trouve. On a manqué un peu de concentration. J'ai dit aux joueurs de retourner à la maison et de réfléchir à qu'est-ce qu'ils veulent faire avec cette finale, s'ils sont contents d'être là et satisfaits d'un excellent parcours ou s'ils veulent faire les efforts nécessaires pour aller la chercher.
Voilà pour l'analyse de Luciano Basile. Le match 2, c'est donc ce soir à 20h30, mise au jeu à vivre en direct sur Alpe 1 et alpe1.com.
Merci Romaric.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com.